C'est parti pour notre quatrième rencontre avec Abraham qui s'intitule « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, l'espérance d'Abraham ». Vous vous en rappelez, la dernière fois, on avait vu deux points majeurs. Tout d'abord, cette propension d'Abraham et que nous avons tous à réduire l'appel et la promesse de Dieu à quelque chose d'accessible par nos mains ou à notre mesure. Et combien Dieu invite Abraham à sortir de sa mesure, de sa manière de voir. Et puis le deuxième point que l'on avait vu, et qui est fondateur, c'est l'expérience qu'Abraham fait de comprendre que la promesse de Dieu va tenir non pas sur lui, Abraham, non pas sur ses capacités ou sur ce qu'il est, mais va vraiment tenir sur l'engagement irrévocable jusqu'à la mort que Dieu prend vis-à-vis d'Abraham. Et nous avions vu combien pour construire quelque chose, pour accueillir la promesse de Dieu, eh bien, il y a un moment où il faut poser cet acte de foi, cet acte de confiance. « Je sais en qui j'ai mis ma confiance », c'est-à-dire en toi, Dieu, et non pas en moi, en toi, Dieu, qui est miséricorde et qui a choisi pour moi, qui a choisi définitivement pour moi de te donner totalement. Alors, Abraham continue à avancer et vous allez voir avec ce chapitre 16 qu'il en tire une couche, monsieur Abraham, un peu comme moi, peut-être comme vous aussi. Et voici ce qu'il nous est écrit dans la Bible au chapitre 16, après cette belle expérience, hein, cette alliance unilatérale pourtant que Abraham a reçue, que Dieu a conclue avec lui. Chapitre 16, la femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Vois, je t'en prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur juge entre moi et toi. » Abraham dit à Sarai, « Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. » Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. L'ange du Seigneur la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis devant ma maîtresse, Sarai. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte. » Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Au Seigneur qui lui avait parlé, Agar donna ce nom, tu es Elroy, car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit ? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Araï-Roy, il se trouve entre Kadès et Béred. Voilà un passage qui nous montre Abraham, sous un jour assez négatif avec Sarai, son épouse, puisqu'il fait encore une réduction de la promesse. Et comme la réalisation de la promesse ne vient pas, puisque Sarai est toujours stérile, il va poser un acte violent, un abus, voilà, en écoutant d'ailleurs sa femme, qui est aussi d'accord pour commettre cet abus, qui va être de prendre l'esclave, la servante, et de se servir d'elle pour essayer de faire advenir la promesse. Voilà, c'est un acte qui va entraîner plein de conséquences très négatives, hein, comme une structure de péché, de violence, de mal. Ensuite, hein, voilà, la servante va se mettre à mépriser Sarai. Sarai va maltraiter l'esclave qui va devoir fuir. Voilà ce que fait Abraham. Eh bien, on peut tirer de cela que Dieu, voilà, va continuer quand même à marcher avec Abraham. Il va faire, et je vais y revenir, de cet acte mauvais, il va en faire quelque chose, c'est-à-dire que Dieu va l'assumer à travers l'acte que pose Abraham Dieu ne renonce pas à la promesse. Il lui dit, ça ne va pas être Ismaël hein, qui sera ta descendance, mais voilà, le mal que tu as fait, je vais quand même en tirer un bien et je vais quand même voilà, te bénir, assumer ce que tu as fait et continuer avec toi. Il y a quelque chose d'encore plus puissant dans ce texte lorsqu'on le regarde de près. Si vous avez été attentif, ce texte vous dit peut-être quelque chose. Lorsque l'ange du Seigneur est envoyé vers Agar, il lui dit « Tu es enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël. » En fait, le récit de cette annonciation dans la Bible résonne énormément avec l'annonciation que l'ange fera à Marie dans le Nouveau Testament. Et saint Luc, lorsqu'il écrit le récit de l'Annonciation, utilise les mêmes formules littéraires que celles que l'on retrouve dans cette rencontre d'Agar avec l'ange du Seigneur. En fait, c'est comme pour nous dire que ce raté d'Abraham, eh bien, Dieu va être capable de l'assumer, de le revisiter et d'en faire finalement le lieu lointain de l'annonce qu'il fera un jour à Marie. Là où le péché a abondé, là où il y a un raté, là où il y a quelque chose voilà, qui est vraiment de l'ordre d'un échec et qui semble même être une impasse et une violence, ce lieu, eh bien, Dieu ne le fuit pas, mais à l'intérieur de ce lieu, voilà, il va en faire progressivement, il va l'habiter par sa grâce et en faire l'annonce du salut qu'il réalisera un jour en la personne de Marie. Et Marie elle-même, dans le Nouveau Testament, confirme cette interprétation. Lorsqu'elle va dire et chanter son Magnificat, lorsqu'elle va rencontrer sa vieille cousine Élisabeth, qui est stérile aussi, voyez, Marie va dire dans le Magnificat, « Il s'est penché sur l'humilité de sa servante. » Et le mot en grec « humilité », c'est le même mot qu'humiliation. Voilà. « Il s'est penché sur l'humiliation de sa servante. » La première servante qui existe dans la Bible, elle s'appelle Agar, et on nous dit qu'elle fut humiliée. Sarai la maltraita, l'humilia tellement qu'elle s'enfuit. « Il s'est penché sur l'humiliation de sa servante », dira Marie, au moment où elle rencontre une vieille femme stérile, Élisabeth, et elles vont avoir un échange de bénédictions, alors que là, dans la Genèse, on assiste plutôt à ce moment-là encore à un échange de malédictions entre une vieille femme, Sarai, stérile, et une jeune servante, Agar. Voyez, ce point et ce texte nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que voilà, Dieu qui s'est engagé jusqu'à la mort pour nous, comme on l'a vu la séance précédente, est capable de faire de nos lieux d'échec, de nos impasses, de nos ratés, des choses vraiment mauvaises que nous avons subies ou commises, il peut en faire le lieu d'une grâce surabondante. Il se trouve là, Dieu, voilà, il ne le fuit pas, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté qu'on ne voudra plus jamais regarder, mais il peut faire de ce lieu voilà, un lieu de grâce, un lieu d'une fécondité que l'on ne voit pas tout de suite, qui nous dépasse, parce que, en fait, à travers peut-être cette horrible blessure, eh bien, il va tout d'un coup y avoir une ouverture à la grâce. Il y a un très beau texte que vous connaissez peut-être de Peggy, qui s'appelle « Les honnêtes gens », où Peggy dit en fait « Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce, parce qu'ils ont un vernis, ils ont une carapace, ils n'ont pas cette horrible blessure qui va un jour les rendre perméables à la grâce. » Et c'est vrai que toute la foi chrétienne nous montre combien là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a même une phrase magnifique qu'on dit lors de la veillée pascale, où on dit « Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur !» Non pas qu'il faille faire le mal pour entrer dans le bien, mais Dieu est tellement aimant qu'il est capable de faire de nos ratés, de nos impasses, des lieux où il va se donner, des lieux qui vont nous transformer, qui vont devenir l'annonce et même la possibilité d'une fécondité que nous n'aurions jamais imaginée. Voilà, je me rappelle, petite histoire, j'ai suivi il y a quelque temps un séminaire donné par un pasteur protestant qui a une très très grande fécondité, voilà, qui a construit une très grosse église. Et en fait, ce pasteur très célèbre a vécu il y a quelque temps le suicide de son fils. Et en fait, il disait qu'il était parti de son église pendant plusieurs mois pour se mettre sous le regard de Dieu après cette épreuve. Et qu'au bout d'un moment, il s'était dit, en fait, enfin, il faut vraiment que je prenne le temps parce que c'est tellement douloureux que je ne vais pas gâcher ça. C'est suffisamment douloureux pour que je ne gâche pas cette douleur et pour que je vois, voilà, dans cette douleur, dans cette épreuve, voilà, où est le chemin de vie que Dieu me propose, hein, que ce chemin de croix devienne un chemin de vie. Et il racontait aussi combien il avait observé dans son église que toutes les grandes œuvres, toutes les choses magnifiques qui étaient nées, viennent très souvent d'une personne qui a vécu à un moment donné une blessure, une douleur forte que Dieu a visitée. Et en faisant l'expérience du relèvement que Dieu lui a donné dans cette épreuve, elle a pu ensuite faire de ce lieu une fécondité, un partage pour d'autres, par son expérience, faire en sorte que d'autres allaient pouvoir vivre ce même relèvement. Voilà ce à quoi nous sommes appelés et peut-être que nous pouvons apprendre de cet enseignement aujourd'hui. Avec cette belle phrase de saint Paul aux Corinthiens, dans toutes nos détresses, hein, dans toutes nos épreuves, on pourrait dire, dans tous nos échecs, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Voilà, alors, ce que je vous invite à faire maintenant comme exercice, c'est de vous poser trois questions. Tout d'abord, voilà, c'est peut-être un moment un peu difficile, hein, de ce parcours. Voilà, donc il faut le faire que si vous vous sentez prêt et que c'est le moment, parce que parfois il peut y avoir des échecs, des blessures qui sont encore trop vives. Voilà, et que ce n'est pas le moment encore de les ouvrir ou de les regarder parce qu'on n'est pas capable. Par contre, voilà, il peut y en avoir où ça peut être le moment, par grâce, vous verrez bien si Dieu vous y invite, voilà, mais de prendre un temps de prière, de vous mettre en présence de Dieu, sous son regard de bonté, et puis lui demander la grâce de revisiter, voilà, certains ratés, voilà, certains moments de votre vie où vous avez vécu des échecs, des impasses, voilà, souffert dans des domaines personnels, professionnels, relationnels, intellectuels ou spirituels, et qui pourraient devenir le lieu d'un appel pour comprendre, réconforter d'autres personnes, voilà, qui pourraient devenir le lieu d'un appel de Dieu pour vous et pour entrer, voilà, dans une fécondité qui sera vraiment une fécondité donnée par Dieu. Voilà, donc, hein, c'est une première chose que vous pouvez faire. Peut-être deuxième question, si celle-là est un peu trop dure, vous pouvez prendre le temps de noter quels sont vos péchés d'anticipation. Voilà, qu'est-ce que vous prenez et qu'il faudrait attendre de recevoir dans la patience. Abraham prend Agar pour essayer de faire advenir la promesse, pour essayer d'avoir un fils à sa manière. Et en fait, le péché d'anticipation, hein, cause souvent beaucoup de dégâts. Voilà. Et donc, voilà, peut-être question, hein, quels sont mes péchés d'anticipation? Qu'est-ce que je prends et qu'il faudrait attendre dans la patience? Et puis, troisième question, qui rejoint un point d'enseignement que j'ai pas assez développé, donc j'en dis un petit mot. En fait, à la fin du passage qu'on a entendu sur Agar vit une expérience incroyable, qui est un peu énigmatique dans le texte. Peut-être que ça vous a marqué. On nous dit au verset 13, au Seigneur qui lui avait parlé, Agar donna ce nom, tu es El-Roi, car dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Arai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bered. En fait, Agar, suite à l'expérience qu'elle fait autour de ce puits, va le nommer du nom de l'Arai-Roi. Ça veut dire l'Arai, le vivant, c'est-à-dire Dieu voit. Et on nous dit juste avant, en fait, pourquoi? Parce que dans ce lieu, elle a fait l'expérience, le texte est un peu énigmatique, mais elle a vécu une expérience très profonde de voir Dieu et d'être vue par Dieu. Voilà, qui est en fait une expérience de communion intense, quand je peux vraiment voir l'autre et me laisser voir par lui. Voilà, c'est souvent un moment d'intimité, de connaissance très forte. Et en fait, Agar accède, dans son humiliation et dans cette épreuve qu'elle vit, à un moment spirituel que Abraham vivra, on le verra plus tard, à la fin de son histoire. Donc elle y accède en premier. C'est comme pour nous dire en fait que très souvent, dans les pauvres, dans les laissés pour compte, dans ceux qu'on dégage de l'histoire officielle, je pense que vous connaissez bien Abraham et Sarah, mais pas beaucoup Agar. Pourtant, lorsque l'ange fait l'annonce à Marie, Le personnage qui est vraiment fortement derrière, c'est Agar. En fait, les pauvres, les petits, les laissés pour compte, ceux qu'on ne voit pas, sont très souvent ceux qui font en premier l'expérience de Dieu, qui sont en fait des maîtres spirituels, qui sont vraiment des personnes qui peuvent nous montrer le chemin à suivre. Et donc voilà, cette troisième question est la suivante, hein. Comment les petits et les pauvres sont mes maîtres? Les laissés pour compte, les histoires de traverse, les oubliés de l'histoire officielle, comment est-ce qu'ils m'enseignent? Voilà, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes que vous ne voyez pas, qui sont humiliées, qui sont pauvres, qui sont petits, qui sont des lieux, des personnes que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont pouvoir vous enseigner. Voilà pour cette étape et on se dit à très bientôt.